Donc, on a un collectif de recherche qui est basé pour l'essentiel à Lille, qui est formé de 5 sociologues et un géographe. Et on a commencé à travailler ensemble depuis une trajectoire de recherche assez hétérogène, au sens où on vient de spécialités différentes, de différents types de sociologie, de différents types d'objets. Certains viennent de sociologie de la famille, de sociologie urbaine, du travail, de l'éducation, de géographie, aménagement. Et donc, du coup, depuis ces différentes spécialités, l'idée est donc ce livre dont aucun d'entre nous n'a mis un exemplaire.
Je l'ai
Mais il y en a
vrai.
un là qui traîne devant. On a du coup décidé de travailler ensemble pour. Je ne sais pas si tu fais bien. De travailler ensemble pour du coup, résister à de fortes. Quelque chose qui n'est pas propre au monde de la recherche, mais qui est très fort dans le monde de la recherche, qui sont des injonctions très fortes à l'individualisation du travail de recherche et à son évaluation. Et du coup, voilà, c'est cette volonté dans un contexte post-réforme ou pré-réforme, puisqu'on est un peu en réforme depuis plus de 15 ans, du coup, travailler ensemble, mener une recherche ensemble, et puis écrire et signer sous un nom collectif. Voilà, la première démarche, c'était celle-là, c'était celle de prendre le temps de le faire, puisque c'est une démarche une recherche qui a commencé en 2010. Le livre a été publié en 2019. Le terrain a duré à peu près jusqu'en 2015-2016. Et puis après, il y a eu un long travail d'écriture et de réécriture et de réécriture. Du coup, voilà, il y avait aussi un enjeu de tenir un peu une temporalité longue de la recherche avec une entrée territoriale. On a choisi un territoire particulier pour tisser ensemble une problématique commune depuis des apports disciplinaires ou d'objets ou de sous-disciplines différents. En termes de ce qu'on voulait faire à l'origine, puis finalement, c'est à peu près ce qu'on a fait. C'était de se demander ce qu'était devenu le travail après la fermeture des usines et de se demander ce que fait le travail à la vie des gens, pour le dire simplement, et donc notamment et surtout peut-être à ceux qui sont habituellement classés hors travail, donc ceux qu'on classe habituellement ou qu'on résume par les termes de chômeurs ou d'inactifs dans les statistiques. Et donc le livre, finalement, il raconte. Il relate une forme de production collective du quotidien populaire depuis un quotidien qui est effectivement marqué par la désalarisation, par une disparition au moins apparente du travail ouvrier. Et on s'est intéressé à comment est-ce que ce quotidien il était produit par des femmes et des hommes dont les trajectoires familiales, individuelles sont plutôt marquées par la marginalisation et puis donc pour le territoire auquel on s'est intéressé, sur lequel je vais revenir après. Alors, en gros, 40 ans de désindustrialisation et de tertiarisation, donc d'une économie qui s'est détournée de l'industrie pour aller vers les services, avec du coup d'énormes disparités sociales et spatiales qui étaient présentes et qui ont été encore aggravées. Donc, du coup, la recherche, elle avait comme objet de lier une perspective qui cumulait travail et espace. C'est-à-dire du coup de regarder, d'analyser l'espace urbain par le travail des classes populaires et de s'intéresser aux pratiques qui se déploient dans cet espace pour se demander ce que cet espace fait au travail, du coup aux évolutions du travail qui se déploie en son sein, et puis en retour ce que ce travail fait au territoire. Donc il y avait ce premier angle qui liait espace et travail, et puis du coup, avec la question de, une fois qu'on s'est posé cette question des liens et des interdépendances entre les deux, qu'est-ce qui se joue en termes de valeurs, en termes d'économie morale pour les classes populaires et l'espace populaire de façon générale. Donc, on a une approche matérialiste. Qui s'intéresse, donc voilà, on a une analyse qui s'inscrit et qui prend pour objet le capitalisme et ses évolutions, qui prend au sérieux la question du rapport capital-travail, y compris quand le travail salarié a l'air de disparaître, et en même temps qui est une approche très très imprégnée de féminisme, pas seulement parce qu'on s'intéresse aux femmes, mais surtout probablement parce qu'on tire de l'approche des féministes matérialistes une acception large du travail, puisque ce sont elles qui ont amené à regarder notamment les pratiques domestiques comme du travail, et donc du coup à sortir d'une définition étroite qui finalement résume le travail par l'emploi, pour plutôt le réouvrir vers l'ensemble des activités qui font et qui produisent le quotidien. Donc voilà, un premier angle matérialiste, féminisme matérialiste et critique. Et puis un deuxième angle, plutôt ancré sur la géographie critique et l'histoire, avec la question de comprendre ce qui se passe d'un point de vue spatial quand le capitalisme est en crise, produit des crises, et en s'intéressant à ce qui se joue autour du droit à la ville, par exemple, et de ce qui se passe en termes d'occupation de l'espace quand les usages de celui-ci changent. Et un troisième angle qui a un peu construit le cadre avec lequel on a commencé cette recherche, c'est celui des économies morales, donc Thompson, Scott, pour s'intéresser donc avec une lecture qui venait beaucoup des travaux qui se sont menés en Amérique latine, autour de ce qui se joue en termes de valeurs et de construction d'un sens collectif dans ces pratiques qui se déploient territorialement. Donc, pour mettre tout ça en application, on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait poser nos valises, nos carnets pendant quelques années. Et quand on est à Lille, en fait, Roubaix s'impose un peu comme un terrain à la fois facile d'accès, largement étudié par les sciences sociales depuis de très nombreuses années. Donc, avec du coup une démarche qui aussi faisait un peu le pari d'accumulativité des sciences sociales, qui pouvait profiter des travaux historiques, notamment, et sociologiques, qui ont été menés sur la ville depuis fort longtemps. Et puis, une ville qui est particulièrement archétypique, à la fois de l'industrialisation, de la mono-industrie et de la désindustrialisation radicale de l'activité. Et qui est aujourd'hui, donc on ne va pas revenir de façon trop pesante sur les chiffres, mais qui est l'une des villes les plus pauvres de France, avec tous les chiffres, toutes les statistiques qui mesurent la pauvreté, l'inactivité, le chômage, qui sont 2 à 3 fois plus élevés que les moyennes nationales. Donc, ville très pauvre, une ville qui reste une ville populaire, puisque la part des employés et des ouvriers reste très majoritaire parmi sa population active, et puis aussi une ville très inégalitaire, puisque c'est une ville où il y a énormément de gens pauvres à très pauvres, mais il y a aussi une toute petite minorité de gens extrêmement riches, et avec des écarts de richesse très importants qui par le fait que l'histoire industrielle de la ville est une histoire textile, donc c'est mono-industrie textile, qui s'est implantée depuis le Moyen-Âge, mais avec une très forte accélération et spécialisation tout au long du 19e siècle et jusqu'aux années 60-70, moment où commence la désindustrialisation, portée par un certain nombre de grandes familles qui deviennent des grandes familles de la bourgeoisie textile du Nord, donc on parle des grandes familles du Nord. Et ces grandes familles, en fait, sont en partie toujours là, leurs héritiers sont toujours là, ce qui explique que dans une portion très minoritaire de l'espace urbain, le niveau de richesse soit très important. Alors, on voulait vous montrer un peu, c'est essentiellement pour ça qu'on voulait avoir des diapos, c'est qu'on voulait vous montrer un peu des photos. Alors, il y a des briques aussi à Roubaix, avec un paysage urbain qui est marqué à la fois par ce que vous voyez là, c'est à la fois des locaux industriels qui ont été réhabilités, rénovés, parfois en lieu culturel, parfois en hôtel d'entreprise ou en lieu tertiarisé, et puis en loft destiné du coup aux classes moyennes supérieures de la métropole lilloise, avec un succès inégal sur lequel on pourra revenir dans la discussion, mais aussi un patrimoine immobilier qui est le témoin des logements qui étaient réservés aux cadres et aux ingénieurs et aux patrons. Alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est plutôt les logements pour l'encadrement, pas pour les directions, donc dans les usines textiles, avec des friches industrielles. Donc ça, aujourd'hui, c'est rasé complètement, mais qui parsème l'espace urbain. On a appelé Roubaix la ville aux mille cheminées. Les mille n'existent pas, ne sont pas toutes encore debout, mais il en subsiste plusieurs dizaines. Alors, j'ai oublié de le dire, mais cette ville, et c'est peut-être ça que vous avez en tête en premier, c'est que c'est une ville qui est particulièrement stigmatisée. C'est une ville qui, il y a moins de 2 mois, a été désignée comme Kaboul à 2 heures de Paris, dans le cadre d'une campagne présidentielle qu'elle connaît. Et la candidate de la droite était aujourd'hui à Roubaix, du prairie se baisse devant elle, ce qui a provoqué des appels à des charters de masse depuis un maire du Tarn. Donc, une ville qui est vue comme à la fois l'archétype de la désindustrialisation et qui serait, ou en tous les cas qui est souvent décrite, y compris par une partie, enfin, par certains collègues, comme un foyer islamisme radical qui résumerait le quotidien des 90 000 Roubaisiens qui vivent dans cette ville. Et donc nous, notre pari, c'était de regarder cette ville un peu autrement, sans nier ce qui pouvait s'y passer, mais en voyant aussi une partie de nos étudiants qui viennent de cette ville, et en envisageant ses habitants comme des travailleurs, et en se demandant du coup que font les gens dont on dit qu'ils ne font rien. Et donc la question principale du bouquin, c'est celle-là, c'est de se demander ce qui fait le quotidien de ses habitants. Donc, comment on a fait ? On a mené une enquête ethnographique donc entre 2011 et 2015 avec une première année. Alors, nous, on a parlé de saison.
Comme dans les séries.
Voilà, donc une première saison par observation, par déambulation, où on est entré un peu par ski. Pour des sociologues de Lille, apparaissait comme l'entrée la plus facile, c'est-à-dire les associations, les syndicats, les centres sociaux, qui nous a permis de comprendre un peu quel était le maillage institutionnel du côté main gauche de l'État, pour le dire comme ça, qui structure la ville, mais qui a fait aussi qu'on avait le sentiment de ne pas rencontrer des vrais gens, pour le dire comme ça, c'est-à-dire que on rencontrait des travailleurs sociaux, des syndicalistes qui travaillaient là, mais souvent n'habitaient pas là, qui racontaient leur impuissance à avoir le sentiment qu'ils avaient de ne pas parvenir à toucher la partie de la population. Et du coup, avec une forme d'insatisfaction à la fois de nos interlocuteurs et de notre part, pour avoir, pour nous sentir et de pouvoir parler avec des gens qui habitaient dans les quartiers populaires de la ville, qui constituent l'essentiel de l'espace urbain. Donc, dans un deuxième temps, du coup, on s'est dit que le mieux, c'était de passer du temps dans la rue. C'est ce qu'on a fait pour une partie d'entre nous. Alors, une partie d'entre nous sont restés dans les institutions. Donc, une partie du terrain, en fait, s'est développée au sein de centres sociaux, dans des ateliers qui réunissaient pour l'essentiel des mères de famille, dans lesquels on a passé plusieurs mois, plusieurs années pour certains centres sociaux, à venir des semaines dans des ateliers où les mêmes femmes, ou en tout cas un groupe à peu près stable de femmes, revenaient pour faire des choses ensemble, échanger, souvent autour de leur rôle de mère, sous la houlette plus ou moins contraignante de travailleuses sociales. Il y a eu un premier terrain qui restait un terrain très saison 1, pour le dire comme ça. Et puis, il y a des terrains qui se sont plus développés à partir de la rue, donc autour des activités de mécanique de rue, et de mécanique plus largement, c'est-à-dire aussi avec un terrain qui s'est intéressé, une enquête qui s'est intéressée à l'articulation entre des garages officiels et de la mécanique de rue dans la rue elle-même, des petits box, des terrains vagues. Une enquête autour de, de l'auto-réhabilitation du logement. Roubaix est une ville de petits propriétaires, de façon assez significative, de propriétaires pauvres, qui du coup sont en situation de devoir rénover leur logement, un habitat qui est assez dégradé. Et de fait, les travaux dans les logements ont cet avantage que ça se voit depuis la rue et donc ça donne un sujet de conversation avec les gens qui font ces travaux. Et puis, il y a eu deux terrains plus annexes et plus circonscrits autour des activités de coiffure à domicile et puis en commerce et en pignon sur rue et auprès d'un, d'un collectif d'anciens, d'anciens travailleurs du textile. Donc, c'est ce qu'on a mené, ce qu'on a appelé une ethnographie de plein pied avec une imprégnation de, voilà, dans la vie sociale, des observations, des déambulations, des discussions. Finalement, une enquête qui, pour des sociologues, est minoritairement constituée d'entretiens enregistrés ou d'entretiens semi-directifs, qui est plutôt constituée de notes d'observation, qui est, dans l'idéal, constituée d'un peu de deux outils auprès des mêmes personnes, qu'on a du coup à la fois vues dans leur quotidien et interrogées dans un cadre un peu plus formel. Donc, au final, on a rencontré un peu plus de 250 personnes, dont un peu moins de 200 personnes de milieu populaire. On a qualifié ces classes populaires d'en bas, parfois stables, et surtout de en marge du marché du travail. C'est un peu ça qui les caractérise. Au moment où on a fait notre enquête, il y avait d'autres collectifs de recherche qui travaillaient aussi sur les, de sociologues qui travaillaient aussi sur les classes populaires, qui du coup s'intéressaient à des fractions plus stabilisées de ces milieux populaires. Voilà, nous, nous, les gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a passé du temps, étaient des gens qui, quand on dit aux marges du marché du travail, je vais y revenir tout de suite, mais du coup, pouvaient avoir du travail salarié ponctuellement pour une partie de la famille sur des contrats précaires, puis articulés avec des formes non, non salariées de, d'activité. Et donc, avec des enquêtés qui sont surtout des femmes, surtout des gens d'origine immigrée, surtout algérienne, et qui sont plutôt des parents, voire des grands-parents, pour le dire rapidement. Et donc, la première question qu'on a posée à ce terrain, c'est celle de qu'est-ce qu'ils font, les gens dont on dit qu'ils ne font rien. Et on a adopté un concept qui a été mis en place par une Allemande, une philosophe et sociologue allemande qui s'appelle Maria Mies, qui parle de travail de subsistance. Et donc, en fait, voilà, quand on se balade dans Roubaix, ce qui saute aux yeux, c'est que le travail est partout, sur les fenêtres, tu l'as évoqué, avec des petites affichettes qui proposent soit des biens à bas prix, des biens d'occasion, des services qui, du coup, sont voilà, constitués à vendre ou à revendre des objets ou des services. Et puis, donc, ces activités de mécanique automobile qu'on voit. Donc là, vous voyez une voiture avec des outils dedans, en fait, et des terrains vagues, et des terrains donc, récupérés à, la, à l'activité industrielle, des interstices urbains entre logements et anciens, anciens espaces productifs qui sont du coup réinvestis par une des activités de mécanique. Donc, on a adopté ce terme de travail de subsistance pour insister sur le fait que nos enquêtés, que ce soit les femmes dans les centres sociaux ou les mécaniciens de rue ou les gens qui rénovent leur logement, en fait, ils passent leur temps à travailler. Leurs journées sont plus que remplies de tâches en tout genre qui relèvent à la fois du travail productif et du travail reproductif, à la fois du marché et du hors-marché. Alors, ça fait un peu un inventaire à la Prévert, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, mais qui implique de pouvoir accéder à ses droits sociaux et du coup d'avoir un travail de papier, pour reprendre une expression de Yasmine Ciblo, qui prend un temps considérable, qui consiste en un travail parental qui demande un investissement considérable parce que les écoles publiques de Roubaix, les écoles de Roubaix de façon générale, elles n'ont pas les mêmes moyens que d'autres écoles dans la métropole ou ailleurs en France, parce que les défis linguistiques ne sont pas les mêmes, parce que le travail, suivre ces enfants pour qu'ils s'en sortent, demande de déployer une énergie considérable, notamment quand soi-même on a fréquenté peu de temps le système scolaire ou on l'a fréquenté dans un pays étranger. Donc, un travail éducatif qui est extrêmement prenant, un travail de production ou d'autoproduction, notamment autour de la cuisine, enfin des repas, mais aussi des vêtements, du jardinage, de la petite réparation, du bricolage. Et pour, tout ces, pour toutes ces, ces formes de travail qui parfois se font de façon concomitante, donc les journées de nos enquêtés font plus de 24 heures, leurs journées de travail font plus de 24 heures, elles font plusieurs choses en même temps, qui impliquent des liens de réciprocité très importants parce qu'on travaille avec, pour, au service de son voisin, de sa voisine, de quelqu'un qui est originaire du même village en Algérie, de membres d'une famille élargie qui habite dans un périmètre relativement proche. Et puis, il y a aussi des activités qui relèvent du marché parce que le salariat populaire existe, qu'il est souvent constitué de travaux, de contrats précaires à durée déterminée, à temps partiel, mais qu'il peut occuper une partie des réseaux familiaux. Et que quand on parle de travail dans le marché, c'est du travail salarié, mais c'est aussi du travail informel, mais qui donne lieu à rémunération, notamment dans les activités de mécanique automobile avec de l'échange monétaire de la main à la main qui passe sous les radars du travail déclaré. Donc avec des liens de réciprocité, mais aussi des liens marchands qui vont, dont la trame constitue le quotidien de celles et ceux qui ont été nos enquêtés.
Alors voilà, on s'est posé un peu la question du coup que deviennent les capacités productives des gens. C'est ça, finalement, quand les usines ne sont plus là. Donc, que font les gens de leur vie? Enfin, on a montré cette un peu centralité du travail, toujours dans la production d'un quotidien. Mais l'autre question qu'on s'est posée aussi, c'était le devenir de la ville aussi, désindustrialisée, la ville quand les usines ne sont plus là. Parce que souvent, la ville, elle est aussi racontée. De la même façon qu'on stigmatise les gens, enfin, ça se double en fait à des formes de stigmatisation aujourd'hui de l'espace. Les villes qui ne sont pas profitables par les capitales sont villes qui sont périphérisées, sont villes qui sont stigmatisées avec aussi des habitants. Donc, en fait, l'entreprise qui consiste à redonner un peu, enfin, révisibiliser en fait à toutes ces capacités qui sont activées pour produire un quotidien plus ou moins aimable, il faut aussi la redoubler d'un effort pour là du coup aussi analytique, théorique, pour montrer les façons par lesquelles les villes aussi sont produites activement par les gens. Et ça c'est important parce que les responsables des politiques publiques agissent comme s'il n'y avait pas d'habitants, comme si ces villes n'occupaient pas des fonctions, comme si, n'est-ce pas? Et souvent, on met en place des politiques, y compris contre les habitants, c'est des gentrifications, etc. Alors qu'il faudrait produire des politiques publiques à partir des enjeux qui sont ceux des gens qui vivent dans la ville. Vous voyez, donc là, il y a effectivement un enjeu aussi à penser à un travail, donc pour appeler ces activités, ces pratiques comme étant du travail, mais aussi à penser ou décrire la façon dont les habitants sont part de ces espaces qui ont été délaissés par le capital. Donc, pour nous, effectivement, enfin, notre recherche met en avant ou montre effectivement ces liens étroits qui existent entre travail et ville, et travail et espace, puisque l'espace, finalement, cet espace qui est désindustrialisé, qui ne produit plus de valeur du point de vue du capital, est au contraire support et résultat aussi d'un travail populaire. sur l'espace. C'est-à-dire, sans cet espace, il n'y aurait pas du travail populaire. Et cet espace est lui-même aussi le produit d'un travail qui les constitue, qui les fabrique, qui les produit. Là, on se situe un peu dans une réflexion qui intéresse un peu plus les collectifs militants autour effectivement des concepts comme les droits à la ville, etc. Donc c'est Lefebvre, c'est Harvey, et puis ces collectifs militants qui dénoncent les usages des espaces par les capitales, enfin, notamment autour des effets en termes d'expulsion des populations, par les dynamiques, les gentrifications, etc. Donc, mais là, comme souvent, on ne voit qu'une partie du processus. Et, enfin, effectivement, l'espace, il est produit par le capital, certes. Mais nous, on voulait montrer aussi la façon dont l'espace est produit par les gens, par les classes populaires. Et du coup, ouvrir la possibilité d'une réflexion, du coup, qui est intéressant à mener avec ces collectifs qui sont organisés, ces collectifs militants, mais ces collectifs aussi des chercheurs, ces collectifs habitants, autour de l'idée selon laquelle, effectivement, les espaces sont en dispute, où il faudrait les penser aussi comme tels. C'est-à-dire, effectivement, pour les capitales, l'espace est un moment fondationnel, on le sait, mais ce qu'on essaie de montrer, ce qu'on a découvert à partir aussi de l'approche ethnographique de cette enquête, c'est que les gens font des choses aussi avec l'espace. Les gens produisent de l'espace à leur image, et que les gens s'en emparent. Et du coup, il s'agit de penser l'espace aussi comme étant les fruits d'une dispute, d'un conflit, hein, dans lequel voilà, il y a des victoires, il y a des fêtes, etc. Bon, mais en tout cas, c'est une dynamique. Et ça se voit. Parce que, effectivement, les espaces qui ont été laissés vacants par le capital, ces espaces, ces frises en Barléane, les bureaux à l'abandon, les usines, etc., sont réinvestis. C'est ce qu'on voit, sont réinvestis par les gens, sont réactivés par le travail des subsistances. Et ce travail, ce qu'on découvre, c'est qu'il a se réalise dans le logement ou depuis le logement, le logement étant compris comme espace habité. C'est pour cela que pour nous, il y a un enjeu à appeler effectivement ces acteurs, actrices, de subsistance comme étant des habitants, travailleurs aussi. Alors, et ça, je sais pas, ça a un intérêt dans le sens où aussi dans la façon dont on pense, nous et eux, ça permet de reconnecter les activités, les processus, enfin les habitants, voyez, les habitants travailleurs, les quartiers, dans quel type de quartier on peut vivre. Voyez, c'est à partir d'un espace, d'une dimension spatiale qu'on peut penser aussi les liens, qu'on peut penser la ville qu'on veut vivre, mais à partir de l'enjeu immédiat qui est celui de comment on produit les ressources nécessaires à la subsistance des communautés d'appartenance, familles, collectivités, etc. Donc, cette recherche nous a amené à penser ou à décrire comme une centralité populaire, voilà le deuxième concept après celui du travail de subsistance, une centralité populaire, cet espace qui est économiquement, qui est socialement relégué, mais qui est central du point de vue des gens qui les produisent et qui l'habitent. Et donc, du coup, c'était dans le deuxième chapitre du livre, on essaye de montrer par le résultat qu'on a obtenu du fait de ce travail ethnographique de longue haleine, pourquoi on considère que c'est une centralité populaire. Parce qu'en fait, il remplit, cet espace remplit des fonctions. Des fonctions sociales qui ne pourraient pas être du coup produites ailleurs, et parce qu'il a génère aussi des ressources de subsistance. On n'est pas au même rythme. Alors, de toute façon, je vais passer vite là-dessus. Ouais. Bon, Et en commerce, effectivement.
Non, du...
Voilà, c'est ça, le travail de réhabilitation. Voilà, par exemple, voilà, ça c'est intéressant parce que là, on voit comment effectivement, il y a toujours plusieurs façons de regarder une réalité en face. Effectivement, enfin, l'histoire de la constitution des agglomérations comme celle de Lille, enfin, je peux s'expliquer à partir de l'idée de ségrégation socio-résidentielle, effectivement, enfin, d'une part parce que l'habitat ouvrier a été constitué dans le sillage des usines, et d'autre part aussi parce que les logements sociaux en périphérie sont produits dans des espaces périphérisés. Et aujourd'hui, enfin, il y a des dynamiques de ségrégation socio-spatiale qui se manifestent. Enfin, effectivement, elle pèse comme étant des grandes contraintes sur les populations, mais en même temps, ces formes de ségrégation qui constituent une ville comme celle de Roubaix, dans laquelle il y a une majorité de populations d'origine, dont les propriétés sociales sont d'origine populaire, cette ségrégation ouvre aussi l'accès à des ressources. Oui, et notamment du fait de cette abondance dont parlait Anne, de maisons, d'appartements anciens qui sont peu chers, qui sont souvent dégradés, mais de ces faits, ils sont aussi accessibles à l'achat ou à la location privée. Et ça joue beaucoup en termes d'ancrage de ces populations pauvres, cet ancrage populaire dans l'espace urbain. Le logement, c'est effectivement l'espace idéal pour, si vous voulez, enfin, on le voit quand on se balade dans la rue, les effets visibles, matériels, de la façon dont le travail des subsistances agit sur la matérialité de la ville. Et on a rencontré à de nombreuses familles aux revenus précaires qui sont devenues propriétaires, effectivement, des biens dégradés à bas prix. C'est qu'elle n'aurait pu jamais faire ailleurs. C'est-à-dire, elle construit une trajectoire collective en achetant un bien qui est dégradé à bas prix. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec, après, ensuite? Eh bien, après, ces maisons, il faut les rénover. Il faut mener un travail de réhabilitation. Et comment il est réalisé, ce travail de réhabilitation? Eh bien, ce travail de réhabilitation est réalisé par, effectivement, ce travail de faire qui sont mis à la disposition d'un projet, effectivement, et puis avec ces logements qui est réhabilité, donc ça permet aux familles des classes populaires de se loger elles-mêmes, se maintenir dans un domicile, aussi de loger des parents qui sont devenus âgés potentiellement, mais parfois aussi ça permet à certaines familles populaires de devenir propriétaires ailleurs, donc de loger du coup sans discrimination des populations qui ne trouvent pas forcément un logement ailleurs dans la métropole lilloise. Donc ce qui contribue, vous voyez, au maintien d'une occupation populaire et immigrée dans l'espace local. Là, on voit en acte la façon par laquelle à Roubaix on résiste à des processus de gentrification. Et c'est par ce travail et cette appropriation, et cette récupération, et cette production d'un logement selon des règles, y compris esthétiques, propres aux classes populaires, dans un espace qui, du coup, résiste à la pénétration des classes moyennes. Alors, la rue, donc logement, la rue est aussi un espace de travail. On a dans nos extraits effectivement des notes de déambulation. On voit comment, voilà, je vous lis des jeunes qui tiennent les murs, une famille qui investit les trottoirs comme si c'était sa cour, un scooter en train d'être réparé par des adolescents qui se mettent à tripoter ces scooters et qui, ce faisant, ils s'acquièrent des savoir-faire, mais ils s'acquièrent aussi un goût du travail, ils s'acquièrent des compétences, mais ils s'acquièrent aussi cet amour aussi du travail bien fait. Hein. Vous voyez, un peu, on retrouve là la vieille tradition, la vieille culture ouvrière qui se décline autrement, y compris ces hiérarchies qui sont fondées sur c'est que chacun se faire. Hein, donc, en fait, la classe ouvrière, la culture ouvrière est toujours vivante. On la voit hein, de la façon dont ces savoir-faire sont transmis, mais aussi c'est des savoir-être. Hein, c'est des jeunes qui souvent ont quitté l'école parce qu'ils se sont retrouvés en échec scolaire, mais le fait de produire ce type de connaissances, de savoir-faire, leur permet aussi de retourner les stigmates, justement, d'un abandon trop tôt de l'école, puisqu'ils sont reconnus comme étant potentiellement des bons mécaniciens, parce que sachant comment agir, effectivement, voilà, sur les objets qui sont nécessaires hein, dans la vie quotidienne. Donc ça c'est récurrent. On voit aussi du linge qui sèche hein, dans la rue, une petite voiture électrique qui sert hein, d'espace de stockage à du matériel de réparation automobile, hein, etc. Voilà, on a parlé des activités de rénovation, des dépôts de matériaux cassés un peu partout, des veines remplies, hein, des meubles, des cuisines, des lambris, etc. La mécanique de la rue qui est omniprésente. C'est aussi le travail n'est plus contenu dans les usines, le travail n'est plus contenu dans les espaces hein, du travail formel de jadis, il n'est plus dans les bureaux. Le travail, il inonde la ville. Le travail, il est à l'état liquide, hein, il est nomade. Hein, il s'agit aujourd'hui d'un travail nomade. Hein, les gens travaillent à la maison, les gens travaillent dans la rue du quartier, les classes moyennes, les classes intellectuelles, on travaille aussi à la maison, on travaille avec les téléphones portables, on est connecté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans les villes. Et de ces faits aussi, les villes ne sont plus comme les villes fordiennes, fordistes, qu'on appelle fordistes, dans lesquelles il y avait une spécialisation absolument phénoménale. Il y avait les quartiers résidentiels, il y avait les usines, ensuite il y avait les quartiers dans lesquels on allait s'amuser, les quartiers des loisirs, etc. Aujourd'hui, les usages de la ville, effectivement, sont devenus objet aussi de disputes, hein, puisque la ville, c'est l'espace dans lequel on travaille aussi. Et du coup, il y a des négociations nouvelles, il y a des acteurs nouveaux aussi de la régulation de ces activités. Et qui régule, par exemple, l'activité des mécaniciens de la rue? En partie, c'est les voisins, parce qu'ils sont gênés ou non. Enfin bref, il faut discuter avec les voisins. Il y a aussi les services de police qui circulent, qui interdisent, etc. Voilà, vous voyez, donc, en fait, la ville devient, nous, on a pensé ça, la ville devient une usine. La ville devient une usine, la ville devient un espace dans lequel, effectivement, les gens vivent, les gens, on dort chez soi, mais on travaille aussi chez soi, on travaille dans la ville, etc. Le commerce. Ah oui, ça c'est phénoménal aussi. Voilà, mais dès qu'on se met un peu à parler d'ethnographie, non mais les commerces, c'est fou. Parce que, bon, juste quelques données, hein, mais après du point de vue de la sociologie économique, c'est très intéressant, parce que toute société crée toujours des espaces qui sont, qui sont pas gouvernés par la logique de la rentabilité, qui sont pas gouvernés par la logique du salariat, etc. Et les commerces, et notamment les commerces de proximité, les activités en lien avec l'indépendance, etc., sont très, très, très fortement présentes, notamment dans les sociétés peu marchandisées, et notamment dans les sociétés du Sud. Ça, on l'a appris hein, en lisant des trucs hein, sur l'Amérique latine, sur le sud de l'Italie, etc. Roubaix, comparativement à d'autres villes dans la métropole lilloise, c'est phénoménal. Il y a les magasins d'alimentation générale, c'est trois fois plus que dans les autres villes de la métropole, les boucheries, deux fois plus, les commerces de téléphonie aussi une fois, 8 de plus, restauration rapide, etc. Donc, ça fournit en même temps une alternative aux emplois salariés, mais et du coup, ça crée aussi des dynamiques économiques qui ne sont pas celles propres à la société salariale. Parce que quand on gère un commerce, on n'est pas forcément. Enfin, l'orientation, ce n'est pas à la rentabilité, mais à une distribution aussi, y compris juste du travail existant. Donc, c'est les commerces, c'est la famille qui travaille dans les commerces. Donc, c'est d'autres logiques, c'est d'autres types de relations qui se créent. Mais aussi, du point de vue du travail, mais du point de vue aussi de la consommation, ces commerces, effectivement, ils offrent des prix qui sont adaptés aux populations locales. Et là, on voit, c'est fascinant parce que là, on voit effectivement un peu l'ancrage de l'économique dans le social, complètement. C'est-à-dire les prix, ils ne sont pas déterminés par des raisons qui seraient économiques. Là, c'est complètement social. Les prix sont négociés en permanence et ils dépendent en fait des propriétés sociales, des gens qui participent de la négociation de ces prix. Mais même si vous allez dans un commerce absolument informel, une boulangerie, vous pouvez négocier les prix de la baguette que vous allez acheter. Et par ailleurs, bon, ça connecte aussi avec ce dont on parlait des logements. Parfois, les familles, elles s'achètent un logement en entier, bon, et puis on met un magasin en dessous, et puis ensuite, on vit à l'étage, et puis en dessous, on loue. Bah, on a cherché aussi à la politique de la ville. Enfin, pourquoi je m'arrête hein. Ouais. C'est ça. Oui. Bah, non, ça, je te laisse le dire parce que je te raconte bien toujours.
Je laisse comme ça.
Non, mais je voulais juste. Non, mais ça, tu le racontes bien, c'est vrai, je me souviens. Mais. Non, je voulais dire. Bon, non, mais. Oui, non, mais c'est, là, non, je viens à la question de la répression et puis dans la, ouais. Et puis on s'arrêtera là, hein, c'est promis. Ouais. Bon, de toute façon, vous avez vu, enfin, la centralité populaire, ça remplit des fonctions, des fonctions d'accès au logement. Sinon, on ne les trouve pas ailleurs. C'est-à-dire, on produit un marché du logement propre aux classes populaires. Ça, c'est absolument indispensable. Enfin, voilà. Et c'est les classes populaires qui gèrent, par le travail de subsistance, l'accès et le maintien d'un peuplement populaire dans les quartiers populaires. Et l'accès au travail, qui est central dans un contexte de raréfaction, là, on trouve des ressources. Et puis, l'accès à la biens de consommation. Il n'y a pas de monnaie. Enfin, les gens à Roubaix, Anne et la Pavie, mais ils vivent avec un reste à vivre à des 6 euros par famille par jour. David Harvey, les géographes dont je vous parlais, raisonnent en termes d'accumulation par dépossession. En fait, les classes populaires ont été dépossédées, à commencer par l'argent. Et donc, il faut faire, il faut construire une vie quotidienne sans argent. Voilà, donc, la production de cette centralité populaire occupe des fonctions et fait en sorte que les gens voilà, s'en sortent péniblement, mais quand même s'en sortent. Mais l'autre question qu'on se pose, et ça c'est le chapitre 4, mais malheureusement je vais la développer très rapidement parce que j'aime beaucoup parler et puis parce que je ne sais pas synthétiser. Dans le chapitre 4, on revient sur, en fait, que font les administrations publiques, les collectivités territoriales, etc. Enfin, voilà, de ces travails. Et de ces espaces populaires. Parce qu'on pourrait dire, bon, on les laisse, gérer tout ça en autonomie, ben non. Pourquoi ? Enfin, c'est drôle. On a vu un documentaire il y a 3 semaines ou 4 semaines à Roubaix qui a été fait par un couple de réalisateurs. Enfin, qui sont proches, très, 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 très chouettes. Et une femme parle, et avant, c'était les patrons qui, je voulais dire, hein, qui nous contrôlaient, qui nous mettaient au travail, etc. Aujourd'hui, c'est les agents des collectivités territoriales qui sont là, qui gèrent nos vies, qui sont en permanence, et qui nous contrôlent, nous surveillent. Les pratiques qui sont constitutives de cette centralité populaire font l'objet de répression de la part des pouvoirs publics. Ce qui veut dire qu'en fait, que le travail n'est pas toujours préférable. Il faut qu'il soit conforme à un certain nombre de règles ou à un certain ordre moral sociale. Comment on réprime le travail de subsistance? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut fermer un marché aux puces. Ben, les marchés aux puces ont été interdits à ouvrir alors qu'ils sont promus, vous le savez bien, certains dans les quartiers des classes moyennes. On peut imposer effectivement des plans de rénovation urbaine qui, pour nous, c'est une forme par laquelle on brise les solidarités locales. Parce que les plans de rénovation urbaine visent à dédensifier. Et par cette dédensification, il y a des déplacements forcés de populations qui vivent et travaillent ensemble. On peut fermer des crèches. Une fermeture de crèche, quand on pense l'activité des femmes, des hommes, en étant connectés, etc., une fermeture des crèches ou des services de proximité, on peut raisonner en termes ensuite des coûts, de temps de travail qui va être nécessaire pour pallier à cette fermeture d'une crèche qui est installée dans un quartier populaire, les coupes budgétaires dans les associations, les durcissements de la supervision des pratiques de réhabilitation, parce qu'effectivement, il y a police de la ville qui était mise en place pour veiller à ce que toutes les pratiques de réhabilitation soient conformes aux normes édictées par la ville. On met en place en fait des techniciens qui vont venir surveiller les travaux faits par les familles, par les populations pour améliorer leur logement. Les contrôles, bien sûr, des bénéficiaires des prestations sociales, la répression du dépôt, qui est devenue interdite, la répression de la récupération d'objets dans la rue, la répression du travail de la rue, la mécanique étant paisible, l'amende, etc. Voilà, autant de façons par lesquelles les autorités vont garder un contrôle et sous surveillance des acteurs des économies populaires.
On a voulu montrer dans le livre à quel point est-ce que à la fois ce travail, cette centralité populaire, du coup, se trouve à la fois, enfin, se trouve nourri par le bas et réprimé ou encadré par le haut, pour le dire comme ça de façon un peu rapide. Mais pour être nourri par le bas, ce qui fait ciment et ce qui fait lien entre les habitants et du coup ces habitants et habitantes qu'on a d'abord vus comme des travailleurs et des travailleuses, c'est du coup des formes de résistance à justement toutes ces formes de stigmatisation, de marginalisation, d'encadrement, marginalisation et répression très fortement liées du coup aux formes de discrimination raciste et de discrimination sociale, comment renvoyer en permanence aux Roubaisiens et aux Roubaisiennes. Et donc, on pourrait revenir dans la discussion et on va aller très vite là-dessus. Mais
c'est parti pour 20 minutes.
Finalement, pas du tout. Finalement, ce qui s'est dessiné tout au long de l'enquête dans ces pratiques quotidiennes, c'est une forme d'économie morale populaire, et on l'a déjà évoqué, donc du coup je vais vraiment très vite, mais on retrouve en fait des éléments que nous on avait vus de façon assez classique dans la sociologie du travail autour de le travail comme valeur, avec la valorisation d'un travail honnête, d'un travail sérieux, d'un travail bien fait, du coup dans des formes de travail qui ne sont pas du travail industriel, qui ne sont même pas reconnues comme du travail à proprement parler par ceux qui l'effectuent ou celles qui l'effectuent, mais où il y a bien des enjeux de réputation, de respectabilité qui se jouent au quotidien dans l'ensemble de ces activités. Et des activités où, qui par ailleurs, et ça on l'a assez peu évoqué en fait depuis 50 minutes, c'est que il y a une, finalement ça implique économie populaire, elles impliquent une adhésion assez forte à une répartition très fortement sexuée des rôles et des espaces. Livre au final nous a permis d'analyser deux concerts du travail de confection de repas dans les centres sociaux, du travail de mécanique dans la rue, du travail de papier à la maison, du travail parental et du travail domestique, Mais les premiers articles qu'on a écrits, c'était il y avait un papier sur le travail des femmes et puis un papier sur le travail de mécanique des hommes. Ça disait assez fortement ce qu'on voyait sur notre terrain et aussi la façon dont on avait divisé le travail entre nous, pas forcément de façon sexuée du point de vue des chercheurs-chercheuses, mais par contre, il y avait vraiment une spécialisation sexuée de ce travail. Et au final, on peut peut-être finir là-dessus, c'est que ces économies morales populaires, cette économie morale populaire, elle implique, on l'a dit, des liens marchands, des liens de réciprocité, qui sont des liens qui attachent à tous les sens du terme, donc des liens qui sont des liens supports, sont des ressources pour les gens, mais qui sont aussi des attaches qui obligent à accepter sa place dans le cadre familial, dans la rue, dans les cercles de sociabilité, et qui peuvent donner lieu à des, et du coup, on l'a assez peu finalement dit, mais qui donnent aussi lieu à des résistances, mais qui sont toujours circonscrites aux possibilités qui sont à la portée des habitants et des habitantes, et qui sont très fortement conditionnées à la fois par les conditions matérielles d'existence et par les politiques publiques qui s'appliquent à ces territoires et à ces territoires populaires de façon générale. Et du coup, voilà, un dernier mot pour dire que là où, quand on a commencé cette recherche, voilà, Roubaix, c'était plutôt un territoire qui était décrit sous l'angle de l'anomie ou de la désaffiliation du fait de la disparition du travail salarié. Nous, ce qu'on a eu sous les yeux, c'est plutôt de la suraffiliation, de l'intégration sociale, mais du coup, de ce qu'on appelle de la suraffiliation, c'est-à-dire des liens qui, à la fois, sont totalement nécessaires, mais qui obligent tellement que ce n'est pas forcément des liens émancipateurs. Au contraire, ils peuvent l'être, mais dans des conditions très particulières. Et du coup, avec un quotidien populaire qui fait que des phrases comme « Roubaix, on n'en sort jamais » ou « Roubaix, tu t'en vas, puis tu reviens », voilà, sont des espèces de mantras dans notre enquête parce qu'effectivement, les territoires et l'espace est autant une ressource que une contrainte pour ses amis. On arrête.
Oui, non, mais je voulais dire une idée là-dessus.
Merci.